Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. Le département du Rhône reste maintenu en vigilance orange canicule. La ville de Lyon prolonge l'accès libre à ses 3 musées municipaux jusqu'à la fin du mois. Des mesures bien sûr pour lutter contre les effets de la canicule. Ambiance électrique hier au conseil d'administration de Citral Mobilité où il était question de l'indemnité des dirigeants. À Saint-Fond, la municipalité sort le grand jeu pour tenter d'attirer les policiers municipaux. Un centre de formation quasi unique qui vient de fêter ses 15 ans. Les clés de l'atelier à la Mulatière. Visite et reportage.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le département du Rhône reste donc maintenu en vigilance orange alors que 72 départements français basculent ou vont basculer en alerte rouge canicule. Les seuils de vigilance sont fixés département par département avec Santé publique France. Or le Rhône est habitué aux chaleurs extrêmes. Il avait déjà connu l'alerte rouge en août dernier. Ici, le corps médical estime que la population est mieux préparée et les seuils de référence sont donc plus élevés qu'ailleurs. En clair, il faut que le thermomètre dépasse les 34 degrés le jour et ne descende pas en dessous de 20 degrés la nuit, et ce pendant plusieurs jours. Pour l'instant, Météo France juge que ces limites ne sont pas franchies dans le Rhône, contrairement à la Loire ou la Saône-et-Loire voisine et qui sont déjà en rouge. Mais attention, la situation sera réévaluée au jour le jour jusqu'au prochain week-end. La ville de Lyon prolonge l'accès libre à ses 3 musées municipaux jusqu'à la fin du mois. Vous avez jusqu'à dimanche pour le musée d'art contemporain et Gadagne et jusqu'à lundi pour les Beaux-Arts. Attention en revanche pour les musées métropolitains comme Confluence ou Lugdunum. Il reste payant, la gratuité n'y est déclenchée qu'en cas d'alerte rouge. Du côté du festival entre Rhône et Saône qui débute demain, le programme est maintenu malgré la chaleur. Les activités ont été adaptées le matin ou organisées dans des zones ombragées. Seule une balade archéologique a été annulée. Pour le reste, les organisateurs sortent le grand jeu, brumisateur pour les enfants et distribution de melons ou de pastèques pour s'hydrater. Enfin, pour localiser les 300 fontaines et points d'eau de la ville, une carte interactive est en ligne sur le site de la mairie. Ambiance électrique hier au conseil d'administration de Citral Mobilité. Au-delà des nominations, c'est la question des indemnités des élus qui a mis le feu aux poudres. Au cœur du débat, la proposition d'aligner les enveloppes sur les plafonds légaux. Concrètement, l'indemnité de la nouvelle présidente LR Véronique Sarcelli quadruple pour atteindre près de 2 900 € bruts mensuels, tandis que celle des vice-présidents double. L'ex-président écologiste Bruno Bernard dénonce une mesure pas raisonnable quand son collègue Mathieu Viera y voit un mauvais signal envoyé aux usagers. Droit dans ses bottes, en revanche, la présidente Véronique Sarcelli a clos la séquence en rappelant qu'elle ne faisait qu'appliquer le code des transports. Selon elle, les citoyens veulent des résultats, pas des caricatures. La délibération a été adoptée avec 4 voix contre. À Saint-Fond, la municipalité sort le grand jeu pour attirer les policiers municipaux face à une pénurie des effectifs. Le nouveau maire LFI qui a décidé de frapper fort. À Saint-Fond, 6 postes de policiers municipaux sont vacants et pour séduire les candidats. Le maire insoumis Hadi Mebarki revoit à la hausse le régime indemnitaire. Le salaire brut d'un simple agent va passer de 2 500 à 4 500 € par mois. Une hausse massive pour s'aligner sur la concurrence, indispensable pour appliquer la nouvelle feuille de route de l'édile. Hadi Mebarki veut plus d'effectifs, pas de désarmement et surtout des policiers visibles. Fini de brûler de l'essence en voiture, le maire exige des patrouilles pédestres en contact avec les habitants. Pour sécuriser ses interventions, les agents seront prochainement équipés de caméras piétons.
Lyon Demain, médias agitateurs d'idées.
C'est un centre de formation quasi unique. On y enseigne l'électricité, la plomberie ou le plaquage et tous les métiers liés au bâtiment second œuvre. Yann Charrier est formateur aux clés de l'atelier depuis octobre 2025.
Mon métier, c'est de transmettre un savoir que quelqu'un m'a déjà transmis, en fait, il y a une quinzaine d'années. Ouais. Je suis un ancien commercial, directeur de magasin dans la grande distribution du bricolage. À 30 ans, j'ai tout plaqué. J'avais une vie de con, tout simplement. Je me levais à 6 h du matin, je fermais le magasin à 8 h. J'en avais marre, je voulais faire quelque chose de constructif avec mes mains. J'ai rencontré la femme de ma vie qui habitait Lyon. J'ai donc décidé de la rejoindre sur Lyon. J'ai intégré l'école des compagnons du Tour de France. J'ai fait la même chose que mes jeunes alternants. J'ai fait un titre professionnel dans la peinture bâtiment. Je suis par passion muraliste, donc j'avais une stratégie quand même. J'avais un plan en me disant que ce métier allait éventuellement me servir plus tard. Et puis tout doucement, voilà, je suis devenu peintre en bâtiment, salarié, je suis resté quelques années dans une entreprise. Après, je suis devenu dessinateur projeteur dans une boîte du BTP, apprendre des logiciels, des plans, etc. Et après, je suis devenu artiste peintre.
Ça consiste en quoi exactement être formateur ici au Clé d'Atelier en particulier ?
C'est beaucoup d'énergie, ça consiste à déjà créer des cours. On a besoin aussi de théorie et d'appliquer surtout et de connaître les règles de l'art. Donc ça consiste à une partie de son temps libre à écrire des cours et des exercices et l'autre partie du temps à accompagner voilà, des jeunes alternants, enfin plus ou moins jeunes. Hein. On a des gens de 16 ans comme des gens qui ont une trentaine d'années et qui se recyclent comme voilà, j'ai pu le faire. Et ça consiste à les accompagner au quotidien en leur donnant des missions. Ils ont une cabine dans laquelle ils doivent effectuer le B.A.B.A. un petit peu de notre métier. Voilà, on a quatre grandes familles dans notre métier à maîtriser. Et tout au long de l'année, on pratique dans le cadre d'exercices, en cabine, voilà, toutes ces tâches. Donc c'est le bon moment de se tromper, de rater, de refaire, etc. pour être, on va dire, en entreprise, prêt le plus tôt possible. Parce que la réalité aussi du monde du travail, c'est que quand on embauche un alternant, on veut qu'il soit prêt le plus tôt possible pour le laisser voilà, en autonomie. Donc la difficulté étant de transmettre un message et d'inculquer surtout des réflexes pour ces jeunes futurs peintres.
Ils sont très demandeurs ?
C'est très variable. J'ai envie de dire comme dans tous les domaines, il y a des jeunes qui sont tout de suite très motivés. Il y en a qui sont un petit peu parachutés là par hasard ou des fois on se fait une idée d'un métier et puis quand on le pratique, on se rend compte que c'est pas exactement l'idée qu'on en avait. Donc il y en a qui abandonnent leur cursus en cours de route et il y en a qui vont très vite, qui apprennent très vite et qui seront à mon avis de futurs bons peintres en bâtiment.
C'est quoi les idées reçues sur le métier de peintre ?
C'est que le peintre, on pense que bah, il fait beaucoup de peinture. Alors que dans notre métier, 70% du chantier, c'est de la préparation et 30% c'est la crème de la crème, c'est étaler la peinture, l'appliquer, mettre de la couleur, etc. Mais on a des grosses phases de préparation, un peu comme les fondations d'une maison qui sont très importantes. Ce sont des étapes qui sont fastidieuses, un petit peu dures, un petit peu ingrates par moment. Et parfois, voilà, on méconnaît un petit peu et on ne se rend pas compte de tout ce que ça peut représenter.
Et il y a un côté artistique plus ou moins présent, je suppose ?
Ça dépend du formateur et du type de chantier que vous pouvez avoir. Si vous êtes dans une entreprise qui construit des HLM toute la journée, vous allez faire du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Et quand vous êtes dans une entreprise qui a on va dire des chantiers de particuliers qui ont bah, un petit peu d'argent, là, on peut sortir de ce cadre et faire des choses où on s'éclate, comme on dit, dans notre métier, avec des enduits décoratifs, des peinture et encore d'autres choses. Quoi. Donc j'ai envie de dire que ça dépend du chef d'entreprise ou ça dépend de votre cible de client et ce que vous cherchez à avoir comme type de chantier et puis des compétences aussi que vous essayez d'acquérir pour les proposer à vos clients plus tard. Quoi.
Chaque année, quelques 850 stagiaires sont inscrits dans des parcours qualifiants ou préqualifiants ou sur mesure. Megan et Harris, respectivement âgés de 30 et 16 ans, sont tous les deux alternants en peinture bâtiment. Ils nous racontent leur parcours.
Alors moi tout simplement je travaillais déjà dans le bâtiment mais je cherchais à me reformer un peu plus profondément en peinture et du coup j'ai contacté plusieurs écoles à Lyon et j'ai eu un très bon accueil avec les clés d'atelier donc voilà.
Alors moi j'ai connu la peinture de mon père qui m'a refilé ça et j'ai beaucoup aimé ce métier. Du coup mon frère était dans cette alternance, du coup je l'ai suivi et maintenant je suis ici.
Comment c'est le quotidien d'une journée ici ?
C'est assez sympa en fait. En général, on se retrouve, on discute des choses qu'on a fait sur le dernier mois où on ne s'est pas vu. Et puis, donc en échangeant avec le formateur évidemment. Et puis ensuite, à partir de là, il nous explique ça va être quoi l'objectif de la semaine. Et ensuite, on part chacun dans nos cabines et puis on réalise l'objectif. On s'entraide tous ensemble, on mange ensemble et puis c'est super.
Moi, mon quotidien, c'est de s'appliquer ensemble, en travail d'équipe.
Et en général, les clients sont assez contents de voir une femme et ça donne une bonne impression à l'entreprise. Donc même mon entreprise est super content de me voir évoluer avec eux et de m'avoir quoi. Moi pour ma part je suis dans une entreprise qui a différents corps de métiers. Du coup ça va vraiment de la plomberie au carrelage, la peinture, etc. Donc en fait l'avantage c'est que ça va être mon entreprise qui va agir sur. On va aller chez un client et mon entreprise va pouvoir tout faire sur place. Donc c'est que des gens qui se connaissent, donc c'est super sympa, ça crée une ambiance vraiment sympa. Et puis moi après mon rôle souvent ça va être de venir de protéger d'abord l'environnement bâtiments, les zones, etc., les meubles, tout ça. À partir de là, souvent, nous, on va avoir des petites préparations à faire sur les murs, donc de l'enduit, du ponçage, des choses comme ça. De temps en temps, les plaquistes peuvent intervenir avant nous, après nous, les menuisiers aussi. Donc voilà, c'est tout se modélise un peu autour de ça. Et puis nous, ensuite, on finit par nos couches de peinture. Et puis voilà, quoi. Et moi, donc très souvent, je suis dans des chantiers où on fait de la couleur, des choses sympathiques, et c'est sympa, quoi. Franchement, top.
C'est quoi ton ambition quand la formation sera terminée?
Eh ben, j'hésite un petit peu. Donc moi, là-bas, je suis cordiste. Donc je m'étais dit, dans l'idéal, ça serait super si je pouvais continuer à être cordiste en été et être peintre en hiver, parce que cordiste en hiver, c'est pas sympa. Mais ouais, j'aimerais bien pouvoir faire un mix un peu des deux métiers. Ça serait super. Et je suis peintre aussi en tant que cordiste, donc voilà.
Alors moi, j'aimerais m'évoluer dans la peinture en bâtiment et plus tard ouvrir une entreprise, créer une entreprise.
Sur les traces de ton père, en fait.
C'est ça.
C'est en 2010 que débute l'aventure des clés de l'atelier dans un appartement derrière la place Jean Massé, un projet qui s'est recentré pour être viable. Aujourd'hui installé à la Mulatière sur un tènement industriel autrefois occupé par l'entreprise Trévoux, nous avons rencontré Pierre-Martin Aubel, le fondateur des clés de l'atelier.
C'est une longue et belle histoire. Ça a démarré en 2010, il y a 16 ans. On avait démarré sur le marché des particuliers, le B2C, pour former des gens qui voulaient devenir autonomes dans leur logement et puis en même temps se faire plaisir, faire un loisir utile. Bon, on a fait ça pendant 2-3 ans, ça a rapidement démontré ses limites et en fait, on a basculé dans le monde du B2B, de la formation pro. Donc depuis 12 ans, on est un acteur de formation pro, ce qu'on appelle un organisme de formation, plutôt reconnu, orienté notamment sur des publics fragiles et sur des métiers en tension.
C'est le bâtiment second œuvre. Ça veut dire quoi exactement, bâtiment second œuvre?
Alors, les métiers du bâtiment second œuvre, c'est les métiers... Alors déjà, c'est des métiers très en tension et c'est des métiers, tout ce qu'on peut appeler le monde de la finition. Ça va de électricité à peinture, en passant par plaquiste, agent de maintenance, en fait, menuisier. Ce sont tous les métiers qui sont dans la finition une fois que le bâtiment est hors d'ordre. Alors ça, c'était un positionnement jusqu'à aujourd'hui. On est en train d'évoluer un petit peu, on élargit l'offre et aujourd'hui, on étend notre catalogue de formation sur des métiers plutôt TP, travaux publics, ou BTP, bâtiment. Et donc, on va sur des métiers, par exemple, de couvreur-zingueur, où il y a une forte tension, donc on y va, couvreur-zingueur. Des métiers d'étancheur, étanchéité toiture, où c'est aussi très tendu. Et donc, on développe de nouvelles formations. On va aussi sur un titre bientôt d'assistant de gestion dans les petites entreprises. En gros, on essaye d'étendre notre offre de formation sur des métiers dans le monde du bâtiment au sens large, mais en diversifiant.
Chaque année, je crois que c'est 850 stagiaires qui passent ici. Qui peut venir ici se faire former?
On a un volume important, parce qu'effectivement, 850 personnes, bon, c'est beaucoup. C'est beaucoup, en sachant qu'en plus, on les connaît tous un parce qu'en fait, on fait vraiment une approche très humaine de la formation, parce que derrière chaque projet, chaque nom-prénom, c'est un parcours de vie souvent pas forcément simple. Donc l'idée, on a beaucoup d'individualisation de notre parcours. Et qui peut venir? En fait, c'est ouvert à tous. Ça peut être une personne qui est en reconversion, qui était expert comptable et qui veut changer de vie professionnelle. Voilà. Et il y en a eu des cas comme ça. On peut avoir une personne qui a déjà des compétences, mais qui veut approfondir ses compétences et avoir un titre, par exemple devenir qualifié, certifié. Et puis on a aussi évidemment moult personnes qui sont dans le monde, je dirais, de l'apprentissage, au sens apprendre un métier, devenir professionnel. Et l'idée, là, pour le coup, c'est d'apprendre le métier, d'apprendre les normes, le référentiel, la pratique, et possiblement s'insérer dans le monde professionnel. Donc, public assez divers. Voilà.
En face, quelles sont les entreprises qui adhèrent au dispositif?
Nous, on est positionné sur un écosystème qui est hyper tendu. Le monde du bâtiment, alors même s'il y a des débats, on est plutôt dans un creux de vallée en ce moment. Pour autant, ça reste en pénurie forte. La pénurie est moins forte, mais elle est encore forte, hein, elle est tout le temps forte en bâtiment. Et donc l'idée, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises de tailles assez diverses, en sachant que dans notre monde du bâtiment, il y a les majors, hein, Bouygues, Eiffage et autres, qui sont les grands donneurs d'ordre. Mais après, il y a une multitude de petites entreprises, TPE, PME, qui sont des entreprises de 10, 15, 20, 30 personnes, et pour lesquelles, en fait, on est possiblement une solution de RH. Voilà.
Et quelque chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que vous travaillez également dans les prisons. Pour faire quoi?
Effectivement, on a une particularité, c'est que nous, on aime les défis un peu compliqués, et on a une attirance pour aller vers les publics en fragilité. Donc on a différents domaines d'activité dans ce sens-là. On a effectivement eu un marché dans lequel on intervient sur 11 établissements aujourd'hui, dans lesquels on fait de la formation en bâtiment. Et là, pour le coup, l'enjeu des formations, c'est à la fois d'apprendre un métier au sens technique, mais aussi et peut-être surtout d'avoir une logique d'insertion socio-professionnelle. Autrement dit, c'est la formation et plus cette fois dans ce cadre-là un moyen d'accéder à un retour peut-être à la vie professionnelle un jour, en sachant que souvent ce sont des gens qui ont été souvent éloignés du monde professionnel pour plein de raisons que je ne qualifie pas, mais pour le coup la marche est haute. Et l'intérêt de passer par une formation, qui va durer quelques semaines, quelques mois, c'est de se remobiliser à travers un projet de formation et autrement dit préparer la sortie.
C'est un beau défi de permettre la seconde chance.
crois que l'ADN de l'atelier qui est partagé par tous les salariés qui sont passés ici, c'est vraiment d'avoir des convictions fortes en disant qu'on travaille avec des humains et que chacun, quel qu'il soit, a possiblement droit à une seconde chance, effectivement, ou une première, bien sûr. Mais l'idée, c'est quand même de dire que chacun, pour autant qu'on adapte l'outil de formation, qu'on adapte la pédagogie, peut trouver sa place. Et notre enjeu, c'est vraiment de construire des projets et des modalités de formation qui soient intégrantes, inclusives. Voilà. En sachant que nous, on est un acteur, on se définit aujourd'hui comme un acteur RH, dans le sens où la formation, c'est juste le point de départ, mobiliser, former et devenir prêt à l'emploi, mais surtout, on travaille après dans l'insertion, dans l'emploi. Et donc, on a pas mal de passerelles avec le monde économique pour faire en sorte que nos stagiaires aillent à l'emploi, ce qui est le cas aujourd'hui en immense majorité.
Depuis peu, vous êtes également reconnu CFA, vous avez cette qualification, entre guillemets.
Oui, alors on a fait le choix de pivoter aussi, d'aller chercher le CFA. Le CFA, vous savez, c'est le côté centre de formation d'apprentis. Les multiples réformes au niveau de l'État, même si elles sont un peu malmenées aujourd'hui, quand même ont donné un coup d'accélérateur massif et positif dans le monde de l'apprentissage. Et effectivement, l'idée d'être CFA, c'est que pour un employeur, notamment un petit employeur, il n'y a rien de tel pour prendre moins de risques de prendre quelqu'un qui va former aussi lui à sa façon, à ses méthodes, à ses outils, ses techniques, ses produits. Et donc l'idée, c'est qu'on va monter un projet d'alternance où le stagiaire va être dans le monde professionnel. Il va avoir un contrat de travail, d'alternance, mais qui est déjà un contrat de travail dans lequel on va être tripartite. L'OF, nous, en tant que centre de formation, on va jouer notre rôle, on va apprendre tout un tas de techniques, mais l'entreprise va aussi jouer son rôle pour accueillir le stagiaire dans une optique, souvent la plupart du temps, de le garder après.
Vous avez fait une étude d'impact des clés d'atelier, là, ça se mesure.
Alors la question de la mesure d'impact, elle est cruciale, essentielle. Oui, on a fait des mesures d'impact qu'on pourrait renouveler. C'est vrai que, en tout cas, ce qu'on a constaté dans les mesures qui avaient été faites de manière très rigoureuse, hein, avec une approche externe d'un cabinet qui avait travaillé, c'est vraiment un impact déterminant, finalement, sur la valeur ajoutée qui est, on fait de l'inclusion, mais par la formation, par le monde professionnel. On n'est pas un acteur social détaché du monde économique, on est un acteur social, mais au cœur du dispositif socio-pro. Et en fait, notre impact, et les mesures qui ont été redonnées par rapport à ça, c'est qu'en fait, on a un moyen, un média, un accélérateur d'inclusion pour aller à l'emploi. Alors, l'emploi, c'est majeur, parce que l'emploi, ça traîne quoi ? Ça embarque le logement, ça embarque la santé aussi, ça embarque la vie économique, ça embarque la famille qui est derrière. Enfin, donc, en fait, l'impact, il est énormissime. Alors, même si c'est une somme d'impact individuel, mais c'est vrai que l'impact des clés de l'atelier des quelques plus de 10 000 stagiaires qui sont passés ici, je pense qu'on pourrait écrire un livre. J'ai plein de parcours dans la tête, plein d'étoiles qui s'allument. J'en prends un qui est Idrissa, qui est un jeune qui était venu un parcours migration, donc arrivé en France après un parcours compliqué d'exil, quelqu'un qui avait des difficultés en français et pas de métier dans les mains à l'instant T. Il a suivi un premier parcours de 3 mois d'immersion, découverte métier, avec un partenaire chez nous, le Prado. Il a embrayé sur un titre professionnel. Aujourd'hui, ce parcours s'est déroulé depuis, c'était il y a 6-7 ans. Il a passé maintenant un bac pro. Aujourd'hui, il est chef d'équipe dans une entreprise assez connue du bâtiment sur la place lyonnaise, une filiale de Vinci, et il est hyper reconnu. Et il envisage très sérieusement de préparer un diplôme d'ingénieur dans la construction, donc c'est un parcours héroïque. Okay. Et il y en a d'autres.
Les clés d'atelier, donc, à la Mulatière, et en plus, c'est un site connu un petit peu des Lyonnais par rapport à son passé et son histoire avec Tréhoux.
Oui, on est sur un site historique, en fait, qui a une histoire, une belle histoire, qui était mitoyen des ateliers SNCF, de la Mulatière, les fameux ateliers de la SNCF. Et en fait, il y avait une usine de balance qui pesait à la fois les balances de ménage pour peser les légumes, les carottes, mais qui pesait aussi les locomotives. Et en fait, c'est un site qui a une histoire incroyable. Il y avait à peu près 800 personnes qui étaient salariées dans ce site. Et le site a été, à périclité, reprise par le groupe Tapie, ça a tout raté, ça a été racheté. Bon, voilà. Et en gros, le site maintenant est redevenu, on va dire, un peu une pépinière d'entreprise. De plein d'activités plutôt industrielles, artisanales.
Pierre-Martin Aubel qui a annoncé son retrait progressif des clés de l'atelier pour se consacrer à un autre défi, Stop à la sclérose en plaques. En 2025, Pierre a parcouru 2500 km à vélo pour porter son combat contre une maladie dont il n'a pas toutes les clés, mais qui n'empêche pas de réaliser ses défis. Pour sa 18e édition du 10 au 18 octobre prochain, le festival Lumière déménage son village cinéma. Pour la première fois de son histoire, il s'installera en effet en plein cœur de la presqu'île sous les verrières de l'Hôtel Dieu sur près de 2000 m². Ce site historique entièrement restauré va devenir le centre névralgique du festival, un immense espace de vie ouvert au public avec sa librairie et ses restaurants, mais aussi un lieu de culture avec ses expositions et ses rencontres. C'est donc à l'Hôtel Dieu que se croiseront cinéphiles, stars du 7e art et journalistes internationaux. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour la prochaine édition. Et ce sera la dernière de la semaine. Excellente journée.